Santé.
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 C'est bon pour la 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 santé. Bon mercredi 8 mars. Bonjour, c'est Marianne Paquette. On l'a échappé belle un petit peu. J'étais un peu essoufflée. Vous allez peut-être le dénoter. L'émission C'est bon pour la santé qui débute à l'instant sur Canal M. Bonne journée internationale des femmes. C'est aujourd'hui pour vous toutes, vous tous aussi qui accompagnez les femmes au quotidien, messieurs. Journée cette année sous le thème du travail. Donc, la femme dans un monde du travail qui est en évolution, qui est en progrès constant, mais aussi et peut-être surtout l'égalité dans le milieu du travail. Donc, j'en profite pour souligner cette chance que j'ai de pouvoir m'exprimer librement, notamment à ce micro, et ce, chaque semaine, sans préjudice, sans représailles. C'est pas le cas pour toutes les femmes, et ce, même ici au Québec. Il y a certains événements des derniers jours qui nous l'ont prouvé. Donc, je réitère cette reconnaissance de pouvoir m'exprimer, et je souhaite, bien sûr, cette liberté d'expression pour toutes les femmes. Aujourd'hui, à l'émission, on explique avec notre chroniqueuse et infirmière France Cardinal Remette les soins palliatifs et comment ça peut améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d'une maladie grave, d'une maladie qui est avancée, mais bien sûr aussi, c'est la qualité de vie de tous les proches et de toute la famille qui peut s'en ressentir. France, ce sera là en deuxième partie d'émission. Aussi, on vous parle d'un club sportif qui a fait un pas vers l'inclusion et qui a été récompensé en 2016 pour la mention coup de cœur du jury du prix à part entière. Je vous parle du programme de soccer Supersonic du club de soccer Lakeshore, donc c'est à Kirkland, et tout ça avec son entraîneuse Frédérique Bacal. Aussi, en ce 8 mars, on parle de violence, notamment chez les personnes en situation de handicap, les femmes en situation de handicap. 40 % des femmes qui vivent avec une limitation fonctionnelle rapportent avoir vécu de la violence au cours de leur vie. 40 % c'est énorme. On pourra parler de pourquoi ça se produit autant et comment on peut tenter d'éviter cette violence. Tout ça avec Selma Quidry, elle est coordonnatrice à l'inclusion d'AN RFAH Canada. Et aussi, on discutera avec le docteur Gilles Julien, bien connu du grand public, pédiatre social, président directeur général de la Fondation du docteur Julien, de son tout nouveau livre, son nouveau bébé enfant à livre ouvert. Tout ça juste avant la revue de presse de Martin Forgue. Bonjour Martin Forgue.
Bonjour Marianne.
Merci d'être là ce matin pour m'accompagner dans cette revue de presse.
Ça me fait très plaisir et j'en profite brièvement pour souligner moi aussi cette journée internationale des droits des femmes aussi. C'est l'appellation que j'ai vue passer pour cette année.
On s'y attend. On ne sait pas en fait. Ce n'est pas clair. Journée internationale des femmes, journée internationale du droit des femmes.
Ça évolue avec le temps.
Oui, et tant mieux. Vous avez des nouvelles justement concernant certains progrès, notamment liés à la santé reproductive des femmes.
Oui, donc une nouvelle toute fraîche parue aujourd'hui même sur le site de Radio-Canada qui annonce que le gouvernement fédéral octroie 650 millions de dollars à l'aide internationale pour la santé reproductive des femmes. C'est une annonce qui a été faite aujourd'hui même par le premier ministre Justin Trudeau en compagnie de sa ministre du Développement international, Mme Marie-Claude Bibeau. Donc, il y a déjà une partie de cette somme qui avait été annoncée un peu plus tôt la semaine dernière, donc 20 millions de dollars dans le cadre d'une initiative internationale qui visait à contrer le désengagement du gouvernement américain dans ce qui est de la santé reproductive, donc évidemment le droit à l'avortement notamment, dans les pays en voie de développement. C'est une mesure qui a été prise par l'administration Trump. Les 630 millions de dollars qui restent proviendront des budgets du ministère, et ce jusqu'en 2020, donc annonce classique. On annonce un très gros montant, mais ça s'échelonne évidemment sur plusieurs années et ça va au-delà de l'élection à venir. Donc, c'est à voir si ça se poursuivra advenant un changement de gouvernement. Et ça s'ajoute tout ça à 3,5 milliards de dollars que le Canada a engagé depuis 2015 pour améliorer la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants, encore une fois, dans les pays du Sud, dans les pays en développement.
Maintenant, une ressource qui me semble assez intéressante pour les voyageuses et ce, partout dans le monde, Ginopédia, qui est un peu à l'image de Wikipédia.
Oui, c'est une trouvaille que j'ai faite au fil de ma recherche. C'est une initiative qui a été lancée par Ilana Fried, une enseignante américaine qui est basée à Hanoï. Elle a lancé ça en juillet 2016. Et ce qui l'a inspirée, ce sont ses propres problèmes à trouver des ressources gynécologique lorsqu'elle était elle-même en voyage et donc elle a fondé Ginopédia. Comme vous l'avez dit, Marianne, ça s'inspire directement de Wikipédia dans l'élaboration et dans la formation du contenu. Donc, c'est fourni par la communauté, c'est alimenté donc par la collectivité et c'est une ressource donc qui... il suffit d'entrer le nom de la ville dans laquelle on se trouve et on trouve des fiches d'information qui sont divisées en plusieurs catégories: contraception, contraception d'urgence, infection, médicaments, examens gynécologiques, grossesse, avortement, bref, des ressources qui sont disponibles parce qu'évidemment, quand on est en voyage, on ne connaît pas les ressources locales. Oui. Et bien, évidemment, on parlait de Wikipédia, de l'inspiration, mais aussi, ça n'a pas nécessairement seulement des bons côtés, puisqu'on sait que Wikipédia, bon, c'est une encyclopédie dont la véracité, l'exactitude, bon, est très consensuelle. Donc, évidemment, c'est important de toujours vérifier l'information avant de s'engager, surtout quand on parle de clinique de santé. Des fois, dans certains endroits, ben, on peut se trouver avec des mauvaises surprises.
Oui. Maintenant, une dizaine, en fait, de jeunes urgentologues seraient amenés à quitter, ou plutôt poussés à quitter le Québec.
Bien, en fait, il y en a déjà une dizaine qui ont quitté au cours de la dernière année et on dit que 8 ou 9 jeunes médecins envisagent de quitter la province prochainement. C'est ce que déplore l'Association des médecins d'urgence du Québec. On dit que sur les 33 omnipraticiens qui ont fait une année de formation complémentaire en urgentologie, il y en a 4 seulement qui ont trouvé un poste à temps plein au cours de l'année dernière. C'est une nouvelle qui nous provient du journal de Montréal. Et donc, l'AMUC qui déplore la situation, évidemment, blâme la réforme Barrette, blâme le manque de place à temps plein dans les urgences en général. Notamment, bon, ici, en exemple, l'hôpital Santa Cabrini à Montréal, qui, au cours de la dernière année, a perdu 4 urgentologues qui n'ont pas pu être remplacés. Du côté du CHU de Québec, on parle d'une pénurie de 5 médecins d'urgence. Et pendant ce temps-là, le ministère a décidé que tous les postes offerts aux nouveaux urgentologues, eh bien, seraient concentrés à l'hôpital Le Bourgneuf pour la future superclinique dont on a entendu parler. Et on rappelle aussi notamment le cas de l'Abitibi-Témiscamingue. On sait que c'est une région dans laquelle on craint un manque de médecins. Il y a actuellement un manque de médecins. On doit parcourir jusqu'à 90 km parfois, aller jusqu'à Ville-Marie à partir de Témiscamingue pour avoir accès à une consultation en urgence. Et on craint des ruptures de services qui pourraient survenir à plusieurs endroits l'été prochain.
Maintenant, Martin Forgues, dernière nouvelle, je vous amène tout de suite à la santé visuelle chez les conducteurs qui devraient, selon le docteur Langis Michaud, être au cœur de la sécurité routière.
Oui, bien, la consultation sur la sécurité routière, on en a beaucoup parlé à notre antenne à travers l'éventail de notre programmation. Oui, le docteur Langis Michaud, donc, qui est allé de ses recommandations en ce qui concerne la santé visuelle des conducteurs dans le cadre de la consultation, ça s'effectuait sur 2 axes principaux: la fréquence des examens requis et les critères requis pour l'obtention d'un permis. Docteur Michaud qui déplore qu'il n'y ait pas de contrôle de la vue avant l'âge de 75 ans, alors que la plupart des pathologies oculaires se développent entre l'âge de 50 et 55 ans. Il déplore aussi qu'il n'y ait pas d'examen de la vue lors de l'obtention du premier permis de conduire. Il dit que ça permettrait de dépister des problèmes chez des conducteurs de véhicules d'urgence, des camionneurs qui, selon lui, ne devraient même pas pouvoir conduire d'emblée ce type de véhicule, donc conduire de façon professionnelle, et qui sont donc obligés, vers l'âge de 45 ans, disons, de quitter leur emploi, de se réorienter. Donc, ça cause des problèmes professionnels et personnels aussi. Il déplore également la pratique un peu archaïque de mesurer le champ visuel avec tout simplement le déplacement du doigt. Il préférerait que tout ça soit fait avec des appareils
plus
standardisés,
précis, en fait.
Des méthodes, voilà.
Ouais. On l'appellera, docteur Michaud, pour davantage de renseignements. C'est un sujet qui est cher,
oui,
bien
vous
sûr.
Le connaissez bien. Vous le connaissez bien, d'ailleurs.
Tout à fait. Ce sera, enfin, on peut l'annoncer, ce sera un chroniqueur au Canal M. On pourra continuer à parler avec lui de santé visuelle. Martin Forgues, merci beaucoup.
Bonne semaine.
Docteur Gilles Julien, bonjour.
Bonjour.
On parle ensemble de ce tout nouveau bébé que vous venez tout juste de sortir depuis le 1er mars, Enfant à livre ouvert, c'est chez Trécaré. Docteur Julien, d'entrée de jeu, on comprend que ce livre-là vient d'un constat. Peut-être qu'on parle de plus en plus du bien-être des enfants, de l'égalité des chances, du développement du plein potentiel pour tous. On en parle, mais est-ce qu'on fait suffisamment de choses et est-ce qu'on les fait bien? D'entrée de jeu, c'est un petit peu ça que vous soulignez, qui peut-être ne fonctionne pas adéquatement.
Bien, c'est sûr qu'on fait beaucoup de choses au Québec là, pour les enfants. Il y a toutes sortes de programmes, il y a l'accès au CPE, il y a les écoles... Puis il y a une préoccupation du bien-être des enfants gouvernemental aussi, avec toutes sortes de subventions, mais ce qu'on fait moins, c'est écouter un peu plus les enfants parce qu'ils ont des choses à dire, puis ils ont des besoins à exprimer. Puis souvent, on leur demande pas leur avis ou on décode pas suffisamment ce qu'ils veulent, puis on va décider pour eux. Donc, c'est plus l'idée d'intégrer l'enfant dans la pratique d'une médecine, en tout cas dans mon cas, d'une médecine sociale équitable pour que tous les enfants, effectivement, aient une réponse à leurs besoins et à leurs droits là, de façon égale.
Et d'ailleurs, chez vous, dans vos cliniques, Dr Julien, en pédiatrie sociale, en communauté, l'enfant est inclus d'entrée de jeu dans ce processus vers sa guérison, vers son mieux-être. C'est un droit fondamental pour vous.
C'est un droit, mais en même temps, c'est un privilège dans le sens que ça permet de valider auprès de l'enfant si on fait les bonnes choses. C'est sûr que c'est plus facile quand ils sont plus vieux, mais on peut le faire en très jeune âge aussi parce que les enfants nous manifestent toutes sortes de signes par rapport à leurs besoins. Plus ils vieillissent, tantôt j'avais un enfant de 9 ans, puis j'avais une hypothèse pour expliquer ses comportements, ses difficultés multiples. Là, je validais avec lui, là, ça fait de l'allure ce que je dis, là. Puis il me disait ce qui était juste, puis ce qui était moins juste, puis où il voulait que je mette l'emphase. Mais ça, c'est un peu inhabituel, mais ça permet de valider, ça permet de préciser les besoins plus larges, surtout quand on s'occupe de besoins qui sont pas juste des besoins physiques, là, qui sont des besoins plus sociaux ou psychosociaux ou psycho-émotifs.
Oui. Dans Enfants en livre ouvert, il y a plusieurs témoignages, en fait, de vos différents cas qui nous mettent en contact avec ces enfants que vous côtoyez au quotidien, des enfants qui sont peut-être plus vulnérables que la majorité, qui arrivent avec un bagage qui est très lourd, même s'ils ont, bon, 5, 6, 7 ans. Et malgré tout ça, et c'est ce qui est très frappant, Gilles Julien, c'est le potentiel que vous détectez très rapidement chez ces enfants parce que vous lisez entre les lignes. Comment on peut apprendre à faire ça en tant qu'adulte dans ce village qui s'occupe des enfants?
Mais d'abord, c'est clair que c'est très aidant. Puis, l'apprentissage du déconnage des enfants, j'appelle ça souvent le déconnage des enfants, ça se fait... relativement facilement, mais il faut vraiment être extrêmement attentif puis pouvoir apprendre à décoder des choses, c'est des regards, des attitudes, des comportements qui parlent. L'enfant fait rarement un comportement, que ce soit un comportement de retrait ou un comportement explosif là, aux extrêmes, sans raison valide. Mm-hmm. C'est sûr qu'il y a des TDAH, qu'il y a des troubles d'opposition, des troubles de conduite, on sait, qui sont des phénomènes plus neurogénétique, là. Mais la plupart des grandes difficultés des enfants de développement, de comportement, d'adaptation sont liées à des besoins beaucoup plus psycho-affectifs. Et là, ils nous passent des messages. Si on discute d'un sujet chaud avec la maman ou le papa, puis que l'enfant est en train de jouer, puis subitement, il arrête de jouer, puis il regarde, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'on est sur une piste quelconque. Si il nous repousse quand on veut se rapprocher de sa mère, ça veut dire quelque chose. T'sais, il y a plein de signes comme ça pendant une entrevue de médecine sociale qu'on fait, qui vont nous mettre sur la piste, qui vont nous aider. Juste le fait de dire, ben, pourquoi il t'a regardé comme ça? Là, on va aller chercher des codes d'explication, autant chez le parent que chez l'enfant. Et c'est un peu ça que j'essaie d'exprimer dans le livre, c'est qu'ils parlent tellement, même quand ils parlent pas, que si on passe à côté de ça, on manque des affaires importantes, puis on peut faire un mauvais diagnostic. Puis, tantôt, j'en ai un autre enfant qui... c'est tellement... C'est un enfant qui a eu... qui est rendu à 8-9 ans, puis qui a eu 3 familles d'accueil, 7-8 déplacements, des rejets, des abandons. Puis, c'est sûr qu'il y a un TDAH, mais en même temps, il y a beaucoup d'autres choses adjacentes à cause de son vécu antérieur. Mais il était assez alerte pour pouvoir m'expliquer plein de choses, puis d'expliquer aux adultes autour de la table c'était quoi ses vrais besoins.
Oui.
Donc, mais si on n'est pas à l'écoute de ça ou qu'on ne donne pas la chance à l'enfant de l'exprimer, on manque trop. Je trouve ça dommage. Puis le petit livre, il essaye de dire aux parents et aux intervenants, écoutez, regardez-les, là, observez-les comme il faut, puis donnez-leur la chance de s'exprimer, que ce soit par le jeu, le dessin, la parole. Il y a plusieurs façons de procéder là, au niveau technique, mais ça nous met sur des pistes qui vont nous aider à mieux comprendre ce qui se passe.
Oui, à mieux comprendre ce qui se passe et à prévenir aussi. On en parle, oui, de plus en plus de la prévention, mais peut-être pas suffisamment. Et votre passage de la fin est très révélateur en ce sens où vous rencontrez une personne itinérante qui vous souligne qu'elle aimerait avoir pu être en contact avec vos services. Donc, c'est ça qu'on tente de faire en pédiatrie sociale, en communauté, c'est de prendre l'enfant avant qu'il arrive dans la rue sans plus de recours.
Oui, puis tout ça, tu sais, c'est l'itinérance, la consommation, les gangs.
Oui.
Il y a beaucoup de phénomènes qui sont, d'aboutissements comme ça, qui sont issus du passé, de la jeune enfance aussi. Et quand on peut déjà attraper chez les petits-enfants, les enfants d'âge scolaire aussi, des indices que là, la souffrance est assez grande, le risque devient grand que l'enfant aille sur une mauvaise trajectoire, puis qu'on réussit à intervenir précocement là, mais là, on prévient un paquet de choses, effectivement. Donc, on aime ça les voir le plus tôt possible, et la portée préventive de ce qu'on fait quand on écoute l'enfant comme ça, puis qu'on l'accompagne, est énorme. Et on n'a pas des taux de succès à 100%, mais on a des taux de succès élevés qui empêchent justement ce phénomène-là. Puis qu'une femme itinérante me dise ça, c'est tout à fait logique. Ça voit bien qu'avec son enfant, ça pourrait aller dans le même sens qu'elle. Puis que si on travaille ensemble, bien on va empêcher ça.
Oui. Mais on le ressent, cet impact, dans votre livre, ne serait-ce que par les lettres qui vous ont été écrites, Dr Julien. On souhaite que vous puissiez continuer à faire ce travail que vous faites déjà depuis plusieurs années auprès des enfants. On peut aller sur fondationdrjulien.org pour continuer à vous aider à vous intéresser à votre mission, à celle de votre équipe. Et on peut aussi consulter Enfants à livre ouvert, je le répète, c'est chez Trécaré. Dr Gilles Julien, merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Selma Quidry, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes coordonnatrice à l'inclusion chez DAWNRFAH Canada, Down, je pense qu'on peut dire.
Oui, le Réseau d'action des femmes handicapées du Canada.
Et on parle en ce 8 mars, Selma, de violences faites aux femmes en situation de handicap. Et en ce sens, les chiffres sont effarant. 40 % des femmes en situation de handicap disent avoir vécu un épisode de violence au cours de leur vie. Ça, c'est une femme sur 5. Ces chiffres-là, on les retrouve sur votre site. Ils viennent d'où, ces statistiques-là, très, très tristes, Selma?
Oui, en fait, c'est très triste et le plus triste, et c'est que c'est des recherches qui ont été faites, des recherches et actions au niveau communautaire. C'est aussi des focus group à petite échelle, en fait, comme on dirait, c'est du bouche à oreille aussi, parce qu'on voudrait avoir une recherche, des résultats, en fait, des statistiques à grande envergure aussi, plus importante aussi, pour comprendre un petit peu plus ce phénomène-là qui est effarant aussi. Hein. C'est parce que c'est des femmes aussi qui ont parlé, mais qui ont refusé à ce que ces chiffres-là aussi, qu'elles fassent partie de ces statistiques-là, mais qui ont quand même parlé. Donc, c'est très important de soulever le fait que au niveau des instances décisionnelles, on n'a toujours pas de statistiques claires autour du phénomène et de la situation des femmes en situation de handicap.
Ce que l'on sait, c'est 40%, c'est énorme, c'est beaucoup trop. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut expliquer pourquoi cette statistique-là est si énorme et si gonflée?
Ben, écoutez, c'est pas vraiment gonflé parce que c'est quand même, c'est quelque chose qu'on a constaté sur le
oui,
terrain.
Oui, bien sûr, ça, j'en doute pas, là.
Oui, et en plus, c'est de dire c'est énorme parce que ce sont des femmes qu'on est parti chercher pour qu'elles parlent. C'est-à-dire que le nom pourrait être encore plus important, plus effarant pour le silence est toujours là. Le silence est toujours assourdissant parce que ces femmes-là ne parlent pas et ne sortent pas de leur mutisme vu que les ressources n'existe pas pour elles, d'une certaine façon. Même si elles existent pour la majorité de la population, elles sont moins accessibles pour elles. Et souvent, c'est important d'en parler parce que ces violences-là, souvent, c'est dans un cercle connu des femmes. On en parle aussi pour les femmes en général, mais pour les femmes en situation, c'est encore plus effarant parce que ça peut arriver en milieu familial, comme ça peut arriver dans une institution. Donc, ça fait d'autant plus mal parce que ces femmes, quand elles sortent de leur silence, il n'y a rien qui les soutient après, c'est-à-dire qu'elles sont toujours dans ce milieu de violence aussi et aussi avec des abuseurs qui les ont déjà abusées et souvent elles sont laissées à elles-mêmes, oui. C'est ça le problème.
Seulement on comprend que ça peut se produire dans tout type de milieu. Quel type de violence est le plus fréquent chez les femmes en situation de handicap?
Ben, je pourrais vous dire beaucoup, la discrimination est toujours existante. Les violences systémiques sont toujours importantes. Le fait déjà de ne pas avoir accès aux services qui sont accessibles à la population en général, de ne pas y avoir accès de façon équitable, c'est déjà une violence systémique que les femmes subissent. Mais on parle beaucoup d'abus aussi, de violences sexuelles envers les femmes, des attouchements, des violences à caractère sexuel aussi envers les femmes et les filles en situation de handicap et des violences verbales, économiques aussi, hein, ça c'est très très présent, c'est très, et les violences économiques sont encore beaucoup plus présentes qu'on parle de jeunes femmes, de femmes aînées ou de jeunes filles aussi, c'est très très présent, des femmes qui elles-mêmes, c'est leur revenu d'une certaine façon, même si elles sont sur des rentes, mais c'est leur revenu, mais qui est géré par une tierce personne, et puis elle-même, elle a de la difficulté à y avoir accès et élever des situations d'abus aussi par rapport à ça.
Ce que l'on comprend aussi lorsqu'on va sur votre site damecanada.net, c'est que ces femmes ont peut-être plus de difficultés à dénoncer leur agresseur. Ça demeure très complexe pour différentes raisons.
Tout à fait. Comme j'avais débuté tout à l'heure, souvent les cycles, en fait, que les cycles de violence que vivent les femmes, elles les vivent dans des cercles fermés, comme ça peut être le milieu familial, comme ça peut être le milieu institutionnel. Donc, on peut dire que l'abuseur est toujours une personne proche, une personne connue de la victime. Donc, ce qui arrive, c'est que si elle va dénoncer, c'est qu'elle dénonce quelqu'un qui peut revenir vers elle, qui peut lui-même être quelqu'un qui est un aidant naturel aussi pour elle, d'une certaine façon, mais c'est assez difficile. Et des fois, ça peut être un membre de la famille aussi. On l'a vu dans des situations avec des femmes ou des filles vivant avec une déficience intellectuelle et même avec une déficience motrice ou autre. Donc, c'est souvent ces réalités-là qu'on constate. Et donc, le fait de dénoncer, souvent, elles ne sont pas crues. que parfois nous-mêmes on a entendu dans des focus group où il y a eu la présence de personnes avec leurs parents parfois, où on ne croit pas la personne, où on se dit elle est peut-être en train d'inventer, où ça lui semble qu'elle a vécu ça, mais en réalité elle a vraiment vécu ça, mais elle a des difficultés à en parler. Donc déjà le fait de ne pas être cru, de ne pas être pris au sérieux et de regarder est-ce que vraiment, ce sont des choses que généralement certaines femmes vivent. Les femmes en situation de c'est encore plus important parce que, comme je dis, c'est quelqu'un, c'est un membre de la famille et parfois on pense, surtout quand il s'agit des agressions sexuelles, comme les femmes, on pense souvent que c'est des femmes asexuées, puis c'est pas possible, on peut pas croire qu'un homme ou quelqu'un pourrait toucher une femme handicapée. Ben oui, ça existe aussi, on touche, et c'est des êtres humains, c'est des femmes à part entière, c'est pas parce qu'elles sont handicapées qu'elles n'ont pas des émotions, des sentiments aussi. Donc, c'est pour ça la difficulté de dénoncer aussi, c'est le manque de ressources qu'on a constaté sur le terrain aussi. La réponse n'est pas adéquate aux besoins des femmes handicapées, que ce soit même au sein d'un processus de dénonciation qui est très difficile pour les femmes en général. Alors, les femmes en situation de handicap se retrouvent doublement discriminées dans ce processus-là. Dès que ça commence, les difficultés, les obstacles sont là, que ça soit au niveau même, le fait juste de prendre le téléphone, d'appeler la police, c'est tout un processus pour elle. Et une fois qu'elle le fait, ben des fois, c'est la réponse n'est pas adéquate. Oui. C'est ce que l'on a constaté.
En tant que proche seulement, à quels signaux être attentif? Comment pouvoir aider et éviter que ça se passe? Et s'il est trop tard, d'avoir des actions conséquentes?
Ben écoutez, moi en tant que proche, moi la première chose c'est de croire la personne, c'est de l'écouter, de savoir l'écouter, de la croire déjà et de faire son enquête d'une certaine façon et de regarder, de suivre les choses. Nous on a parlé souvent même au niveau des centres de réadaptation, au niveau des formations que reçoivent les préposés aux bénéficiaires, c'est aussi de les rendre alertes et de leur montrer ainsi les façons de travailler avec des femmes parce que certains disent non, nous on lave une personne tout à fait normalement et puis elle pense qu'on fait des attouchements. Il y a des façons à ne pas faire. Elles ne sont pas en train d'inventer. C'est une femme sans qu'il y ait un attouchement ou quelque chose. Elle le sent, c'est pas un mensonge.
De croire et d'écouter, il faut se rappeler de ça. Selma Quidry, vous êtes coordonnatrice à l'inclusion pour le réseau d'action des femmes handicapées Canada. www.downcanada.net. Il y a une fiche d'information très, très complète. C'est très bien amené, très outillant, très informatif. Merci beaucoup, Selma. Bonne journée internationale.
Merci. Merci à vous aussi. Au revoir.
Au revoir. Et nous, on se retrouve après la pause. Deuxième partie de cette émission, c'est bon pour la santé. Je vous rappelle ce qui s'en vient tout à l'heure. Je reçois la chroniqueuse, notre infirmière en résidence, enseignante et auteure, France Cardinal-Remette. Elle sera là pour nous parler des soins palliatifs, comment mieux comprendre, savoir à qui ça s'adresse, à quel moment, et aussi tout ce que ça peut amener comme meilleure qualité de vie pour les personnes touchées par une maladie grave, avancée, et bien sûr aussi leurs proches et leurs familles. Et au bout du fil, je joins à l'instant Frédérique Bacal. Elle est entraîneuse pour le club de soccer supersonique de Lakeshore. Bonjour, Frédérique.
Bonjour, Marianne.
On parle aujourd'hui de cette initiative qui vous a remporté une mention coup de cœur du jury du prix à part entière en 2016.
Oui, exactement.
Un club qui existe depuis 40 ans, Frédérique, mais qui a décidé à un moment donné de faire, je dirais, un 180 degrés et de penser à des jeunes qui n'étaient pas inclus dans ces activités de soccer. Comment cette idée-là vous est venue, Frédérique?
Exactement. Ce n'est pas moi qui a fondé ce programme. Dans le fond, c'est moi, je suis simplement une entraîneuse de soccer qui travaille avec le club de soccer Lakeshore. Mais c'est vraiment l'équipe, c'est vraiment le club de soccer Lakeshore qui a fondé ce programme il y a 10 ans. Beaucoup de personnes ont collaboré pour la mise en place de ce programme. Et voilà.
Et ça venait de quel constat?
Pardon?
Ça venait de quel constat?
De quel constat que voulez-vous dire?
De quel constat, de quelle observation? Qu'est-ce qui vous a amené à dire, il y a 10 ans, ben on doit prendre le tournant de l'inclusion?
Bien, dans le fond, comme vous le savez, les enfants ayant une déficience intellectuelle n'ont pas souvent la chance de participer dans des équipes sportives. Donc, nous trouvons que c'est très important d'inclure tous les enfants et donc que tous les enfants puissent se sentir acceptés et qu'ils sentent qu'ils fassent partie de quelque chose, de faire partie d'une équipe comme tous les autres enfants.
Combien de jeunes ont participé depuis 2008, Frédéric?
Environ 75 jeunes environ.
Et ce sont des jeunes qui vivent principalement avec une déficience intellectuelle?
Exactement. Donc, notre programme Supersonics, c'est une équipe de soccer pour tous les enfants âgés de 5 à 20 ans qui ont une déficience intellectuelle.
Et de quelle façon ça vous a amené à changer votre approche avec les jeunes, à modifier aussi le programme de soccer?
Donc, c'est sûr, donc nous avons fondé le programme de soccer Supersonics il y a 10 ans. Et donc, c'est sûr qu'au début, lorsque nous avons commencé le programme, il y avait beaucoup d'essais et erreurs. Mais c'est sûr qu'avec les années, nous avons appris ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait moins, ce qui fonctionnait moins bien avec les enfants. Aussi, chaque enfant est différent, donc il faut également s'adapter à chaque enfant. On a appris certaines méthodes fonctionnent, pas nécessairement pour tous les enfants, et donc il faut changer nos méthodes pour chaque enfant. Aussi, nous utilisons différents accessoires pour nous aider lors des pratiques de soccer. Nous utilisons, par exemple, des cônes, des cerceaux pour que les enfants puissent savoir où se placer pour un exercice ou un jeu, mais ça se fait toujours bien et c'est accessible pour tous, le soccer.
Donc, je comprends que le programme s'est créé d'une façon essai et erreur.
C'est sûr,
Est-ce que ça vous a amené à ce qu'il y ait plus d'intervenants qui participent au processus du programme de soccer?
Ben, dans le fond, nous avons beaucoup d'entraîneurs, c'est sûr, pour que les enfants puissent comprendre le sport et tout. Et pour qu'on puisse les aider, nous avons un très bon ratio entraîneur-joueur lors de nos pratiques de soccer. Nous avons environ 2 joueurs pour un entraîneur, ce qui est super bon ratio.
Mm-hmm.
Ouais.
Quel est le rôle du parent dans le processus, Frédéric?
Pour nous, c'est important que les parents soient présents lors des sessions de soccer. Donc, ils regardent leur enfant jouer. Et je dirais que c'est très bénéfique pour les parents aussi, parce qu'ils ont la chance de voir leurs enfants participer à quelque chose. Ils voient leurs enfants s'amuser, socialiser, se faire des amis et être heureux. Et je dirais que, encore une fois, c'est super bénéfique pour eux, pour les parents, parce qu'ils ont la chance de rencontrer d'autres parents qui vivent les mêmes difficultés qu'eux pendant cette session de soccer. Et donc, ils ont la chance d'échanger sur différentes choses, de parler de leurs inquiétudes ou de leurs frustrations. Donc, je dirais que c'est très important. C'est très bénéfique pour les parents aussi.
Donc, il y a tout le tissu social également qui se crée à travers ce club de soccer du Lake. On a parlé des retombées positives pour les parents et pour les enfants. Qu'est-ce qu'ils retiennent, d'après vous, Frédéric?
Comme je vous ai dit tout à l'heure, puisque les enfants qui ont une déficience intellectuelle n'ont pas toujours la chance de participer dans des équipes sportives, je crois que c'est super bien pour eux parce que quand ils viennent à nos pratiques de soccer, ils se sentent acceptés. Personne ne les juge. Ils sentent qu'ils font partie de quelque chose. Ce qui est très important. Aussi, c'est sûr que c'est très bénéfique pour leur condition physique. Pendant chaque pratique de soccer, nous faisons une série d'exercices cardiovasculaires ainsi que des exercices pour développer les habiletés motrices et cognitives de nos jeunes.
Et vous, en tant qu'entraîneuse, Frédéric Bacal, ça vous a amené quoi de côtoyer ces jeunes qui vivent un quotidien qui peut-être est différent, un développement qui est différent, mais qui ont tout ce plaisir-là à participer et à jouer au soccer?
C'est super. C'est tellement un bon feeling, comme on dit en anglais. quand je termine ma pratique de soccer avec les enfants, je me sens tellement bien, je me sens heureuse que j'ai contribué au bien-être de ma communauté. Et moi, j'ai été une joueuse de soccer pendant plusieurs années. Et le fait de pouvoir partager ma passion pour le sport avec d'autres, c'est super.
Mm-hmm. Avez-vous l'impression aussi que ça a eu des retombées positives auprès de la communauté à Kirkland?
C'est sûr, c'est sûr. Je crois que on sensibilise la communauté à la déficience intellectuelle et je crois que on est devenu une meilleure communauté, plus forte, qui s'entraide. Donc, de très belles valeurs.
On le disait tout à l'heure, Frédéric, en 2016, le club de soccer Supersonic, en fait, le programme de soccer
oui.
a remporté cette mention coup de cœur du jury du prix à part entière. Oui.
oui.
Est-ce que vous croyez que les inscriptions seront doublées cette année grâce à ça?
Bien, tout d'abord, je souhaite dire que notre but, c'était pas d'augmenter le nombre d'inscriptions. Notre but premier, c'est vraiment de promouvoir l'intégration sociale des personnes présentant des déficiences intellectuelles. Et nous souhaitons vraiment que notre engagement social ait un impact sur d'autres organisations sportives. Donc, nous partageons nos connaissances et notre soutien aux autres clubs de soccer qui mm-hmm. souhaitent aussi mettre en place un programme de soccer comme Supersonics. Nous avons collaboré avec d'autres clubs de soccer dans la région. Mm-hmm. Par exemple, nous avons collaboré avec le club de soccer de Delors-des-Ormeaux, de Notre-Dame-de-Grâce et de Saint-Lambert. Et donc, ces clubs de soccer ont maintenant, eux aussi, un programme de soccer comme le nôtre.
Mm-hmm. Ça fait des petits, cette affaire-là.
Exactement. Mais pour répondre plus spécifiquement à votre question, nous ne savons pas encore si ce prix a eu un impact sur les inscriptions. Nous allons vraiment le savoir lorsque la période d'inscription pour la saison d'été commence.
Et ça débute quand?
Ça débute au mois de mai. Donc, la période d'inscription pour la saison n'a pas encore débuté. Mais si vous voulez avoir plus d'informations et pour vous informer aussi de lorsque la période d'inscription pour la saison d'été commence, je vous invite à contacter la directrice générale du club de soccer Lakeshore, Kelly Ann Sauter.
Mm-hmm.
Son courriel, c'est le dg@lakeshoresoccer.ca.
Et on peut aller également sur votre site internet lakeshoresoccer.ca pour
Exactement.
En savoir davantage. Merci de nous avoir parlé davantage de ce programme de soccer inclusif Supersonic. Frédéric Bacal, vous êtes entraîneur, je le rappelle, de ce club de soccer. On vous souhaite une très, très belle saison 2017.
Merci beaucoup, Marianne, et merci de l'invitation.
Au revoir.
Au revoir.
France Cardinal Remette, bienvenue, bonjour.
Bonjour, Marianne.
Merci d'être là. Une très belle et bonne journée internationale des femmes
oui.
à vous aussi en ce 8 mars. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui peut sembler lourd, en fait, qui est chargé d'émotions, évidemment, qui peut être une étape très sensible dans la vie d'une personne et de sa famille, qui peut effrayer, des termes qui peuvent effrayer aussi, qui font peur, les soins palliatifs. On a l'impression que c'est le dernier pas vers la fin de vie, les soins palliatifs. Et vous allez être là un petit peu pour démystifier, nous dire ce que c'est vraiment, les soins palliatifs. Vous avez tout d'abord, en France, une définition.
Oui. Écoute, tu sais, la définition du terme soins palliatifs, c'est pallier, soulager, apporter un réconfort, en fait, hein, le terme lui-même. Les soins palliatifs, en fait, c'est des traitements qui agissent pas directement sur un problème de santé, sur une maladie, mais qui va plutôt soulager sans pouvoir guérir. Maintenant, il y a plusieurs définitions de soins palliatifs. On entend souvent parler de la notion de soins de fin de vie. Et c'est plus réductif, cette définition des soins de vie. On préfère utiliser celle des soins palliatifs qui est plus globale, en fait, et qui englobe beaucoup d'aspects. Si on regarde la définition auquel adhèrent tous les professionnels de la santé, c'est celle de l'Organisation mondiale de la santé, qui nous parle d'interventions qui doivent se réaliser face à une maladie grave évolutive, évidemment, mais pour soulager la douleur, gérer les symptômes qui peuvent se présenter.
Oui.
Puis, je voulais juste vous dire qu'autrefois, les soins palliatifs, on les associait à une fin de vie. Mais maintenant, on préconise de les intégrer le plus rapidement possible, dès que la douleur, les symptômes se manifestent, pour pouvoir soulager la personne. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont souffert de beaucoup de choses, qui n'avaient pas nécessairement les soins palliatifs au bon moment. Alors, c'est vraiment des soins pour assurer un confort, une qualité de vie.
J'ai envie de vous demander, France, c'est qui les soins palliatifs? Parce que j'ai l'impression que c'est aussi une équipe qui est là pour soulager la personne qui est malade, mais qui peut rassurer, amener de l'information aussi aux proches, de savoir ce qui se passe au jour le jour. Il y a un médecin, bien sûr, mais est-ce que c'est une équipe médicale autour?
Oui, puis c'est vrai, puis il y a la notion où peut-on avoir les soins palliatifs?
Oui.
Hein? Alors, les soins palliatifs se donnent, ils sont offerts dans divers milieux. On parle de soins palliatifs même dans des milieux hospitaliers. Même des gens en oncologie, il y a des gens qui vont recevoir des traitements, puis il y a des équipes de soins palliatifs qui vont se présenter pour évaluer les situations des patients pour pouvoir leur apporter en même temps des soins palliatifs, même pendant leur traitement. Il y a des soins palliatifs qui peuvent être offerts à domicile, en soins de longue durée, dans des résidences ou des maisons de soins palliatifs. Alors, il y a divers milieux où ça se passe, mais la notion de soins palliatifs intègre nécessairement des interventions, effectivement, interdisciplinaires, donc où il y a plusieurs professionnels de la santé qui travaillent ensemble. Et de plus en plus, on intègre même des approches complémentaires ou qu'on appelle intégrées, comme la méditation, des massages, l'art-thérapie, zoothérapie. Alors, ce sont des exemples d'interventions qui se combinent et qui vont finalement contribuer à procurer un meilleur confort à la personne.
Tout ça pour soulager, c'est ça, la personne qui est malade, mais aussi amener, et je le répète, cette espèce d'assurance auprès des proches, de dire il y a quelqu'un qui s'occupe de votre proche qui est malade. C'est pour qui les soins palliatifs? À quel moment on peut en bénéficier?
Bon, comme je le mentionnais tantôt, précocement, bien sûr, mais j'ai des exemples. Comme par exemple, la personne qui est aux prises avec une forme de maladie grave à un stade plus ou moins avancé, là, pour laquelle la douleur, les symptômes nécessitent d'être contrôlés. Là, ils se disent, ça n'a plus de bon sens, je souffre trop, ou j'ai un problème. Je vois, par exemple, qu'ils voient que le conjoint commence à avoir un problème de confusion, il ne dort plus, il ne s'alimente plus. Bon, tous ces types de symptômes-là. Ça peut être aussi une personne qui décide de cesser ses traitements, comme on le voit souvent en dialyse. Hein? Les gens qui décident de ne plus avoir de dialyse, mais ils ont besoin automatiquement de soins palliatifs. Une personne qui souffre d'une maladie chronique, qui se fragilise, qui est souvent alitée, qui a de la difficulté à s'occuper d'elle-même, qui fait des chutes à répétition, qui se présente régulièrement à l'urgence, bien, je pense qu'à ce moment-là, c'est le temps de penser à des soins palliatifs.
Mm-hmm. Et qui décide? C'est la personne qui est elle-même malade ou son proche?
C'est une grande question. On pourrait même dire, est-ce que c'est le professionnel de la santé qui décide aussi?
Oui.
Mais ça peut être la personne elle-même, ça peut être son proche. Mais il faut se rappeler que c'est pas tout le monde qui a accès aux soins palliatifs. C'est pas tout le monde qui ose en parler. Il y a des médecins qui sont encore mal à l'aise de parler, d'introduire des soins palliatifs parce qu'ils ont l'impression de prononcer un arrêt de mort. Alors que c'est pas ça du tout. C'est plutôt, il faut penser au soulagement, au bien-être de la personne, à sa qualité de vie. Parce qu'on veut promouvoir justement l'importance de la vie à travers les soins palliatifs et on veut que la personne vive de la meilleure façon possible ces derniers moments-là. Alors, la personne peut en parler elle-même à son médecin, mais on sait que 15 à 30 % seulement des gens qui ont besoin de soins palliatifs en ont. Le reste, ils n'ont pas d'accès, ils n'en ont pas. Alors, il y a encore beaucoup de pas à faire au Québec pour développer davantage l'accès et les ressources en soins palliatifs.
Donc, il n'y a pas assez de centres de soins palliatifs ou de lieux?
Non, on répond pas, on peut pas répondre à toutes les demandes actuellement.
Parce qu'il y a davantage de personnes âgées? Est-ce qu'il y a quelque chose?
Il y a des contextes sociodémographiques, effectivement. Il y a que les gens ont de plus en plus des maladies chroniques, qui se soignent et qui vivent longtemps avec ces maladies-là. Et à un moment donné, elles ont besoin, ces personnes, de soins palliatifs.
On peut être donc aux soins palliatifs ou bénéficier de soins palliatifs pendant longtemps en France?
Habituellement, on peut dire 6 mois à 1 an. Là. Okay. Il y en a qui vont dire 0 à 3 mois, tout dépendant des milieux où on offre les soins palliatifs. Dans les CLSC, je pense que c'est encore 0 à 3 mois. Dans les résidences de soins palliatifs, la fin de vie se compte en semaines. Par contre, les équipes mobiles qui vont aller dans des centres hospitaliers en oncologie, bien là, probablement que la longueur des besoins sera plus importante.
Oui. Les enfants aussi bénéficient, dans certains cas, de soins palliatifs pédiatriques.
Oui, tout à fait. C'est pas seulement les personnes atteintes de cancer que ça vise, les soins palliatifs.
Ou les personnes âgées, en fait, c'est ce que je voulais mentionner aussi.
Oui, ça, on peut penser aux personnes qui ont des maladies dégénératives, comme l'Alzheimer, ils auront besoin de soins palliatifs. Les gens qui ont d'autres types de maladies, la sclérose en plaques, la sclérose amyotrophique, latérale amyotrophique, différentes maladies qui peuvent survenir dans le continuum de vie, vont faire en sorte qu'à un moment donné, cette maladie grave amène à un point où on a besoin de soins, de confort et de réconfort.
Oui. Et vous en parlez dans votre livre « Quand la vie se fragilise », un guide pour vous et vos proches aidants de soins palliatifs, parce que ça fait partie de cette étape.
Oui.
Lorsqu'on accompagne une personne qui est gravement malade, qui a un diagnostic et en plus où les symptômes s'aggravent, où le proche s'épuise aussi, c'est important de le démystifier dans votre livre.
Oui, tout à fait. J'aimerais rajouter à la fin de cette entrevue qu'on sait qu'il y a eu la légalisation de l'aide médicale à mourir là, avec la loi sur les soins de fin de vie, mais tous s'entendent que si on ne renforce pas les soins palliatifs, c'est certainement une grave erreur. Ça pourrait laisser croire aux gens que le seul moyen d'échapper à la souffrance, c'est de cesser de vivre, puis c'est pas ça qu'on veut. Les soins palliatifs vont vraiment soulager toutes les souffrances dans la majorité des cas. Puis c'est un message que je veux vraiment livrer à la population. Oui. C'est tellement important.
Et il y a une différence aussi entre les deux, entre les soins palliatifs et les soins de fin de vie.
C'est deux notions complètement distinctes, effectivement. Et c'est pour ça que les milieux de soins palliatifs ne sont pas enclins à aller vers l'aide médicale à mourir. Ils vont plutôt référer à d'autres professionnels, d'autres médecins d'un milieu, des partenaires. Là, souvent, c'est un hôpital qui est connexe, par exemple, à une maison.
Mm-hmm.
En général, ces médecins-là ne veulent pas parce que la philosophie même des soins palliatifs, j'aimerais citer Dr. Legault, qui a donné une conférence à l'Université de Montréal, à la Faculté des sciences infirmières, et qui disait « L'aide médicale à mourir ne fait pas partie de l'accompagnement offert par les soins palliatifs, et les soins palliatifs sont encore la réponse la plus adéquate à offrir aux personnes en fin de vie et à leurs proches. » Parce que ça ne s'adresse pas seulement aux gens qui sont en fin de vie, là, mais vraiment aux proches également, parce que les proches ont besoin de soutien, ils ont un deuil à faire.
Oui.
Et puis on offre du soutien même après le décès de la personne en soins palliatifs. Ça fait partie de l'offre.
Et parfois, ils ont ce besoin de comprendre aussi, d'être informés, de se sentir partie prenante du processus vers la fin de vie d'un proche. Et c'est pour ça que je vous demandais tout à l'heure tout l'impact de l'équipe interdisciplinaire qui explique, qui prend le temps de dire où on en est rendu. C'est évidemment extrêmement précieux pour une famille qui a un deuil à faire.
Ah oui, les commentaires qu'on a des familles. Moi, je suis associée à la résidence de soins palliatifs de l'Ouest de l'île. Je suis membre du conseil d'administration. Je suis impliquée au niveau de leur dossier formation. Et les commentaires qu'on a des familles, c'est extraordinaire. Là. Les gens sont tellement contents parce que c'est un moment privilégié souvent pour régler des choses ou pour affermir des liens avec les membres de la famille. Hein. Le moment du départ, là, c'est vraiment très important. C'est important aussi pour la croissance personnelle, la personne qui va partir, mais aussi pour la famille qui entoure et les liens entre ces gens-là. Oui.
Avez-vous l'impression, France, qu'il y a de la confusion chez des personnes plus âgées ou malades qui sont à cette étape de leur vie entre les soins palliatifs et les soins de fin de vie. Une confusion de compréhension
oui,
dans leurs besoins.
Oui, ça peut arriver. C'est pour ça qu'on essaie de devenir des porte-parole, comme je le fais aujourd'hui. Des gens qui vont dire, bien là, si je pourrais mourir, je vais souffrir, j'aime mieux arrêter ma vie. On sait que je sais qu'il y a une loi. Moi, j'ai eu ce commentaire-là d'un proche tout récemment, puis là, je lui ai réexpliqué tout le processus des soins palliatifs. C'était une personne qui était croyante, qui ne voulait pas, dans le fond, arrêter là, ses jours. Et j'ai senti le soulagement,
ouais.
Effectivement.
Ouais.
Oui. Quand j'ai expliqué.
Oui. Mmh. Voilà, à part de l'information, ça c'est précieux. Je vous annonce qu'on le recevra, Dr Alain Legault, de la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal à la fin du mois de mars. Il sera là justement pour lui parler précisément des soins de fin de vie, de cette fameuse loi 2, et on pourra ainsi mieux comprendre ce parallèle entre les soins palliatifs, les soins de vie, se rendre compte que c'est très différent, ça répond à des besoins différents, et bon, les soins de fin de vie sont encore très délicat. Ça fait appel à des questions d'éthique énormément. Donc, on pourra y voir un petit peu plus clair. Des ressources en terminant, France?
Oui, j'ai des ressources pour vous. Alors, des gens qui voudraient en savoir davantage, il y a l'Association québécoise de soins palliatifs au www.aqsp.org. Il y a le portail canadien en soins palliatifs aussi. Je crois qu'on pourrait laisser les sites sur la page.
Certainement, Christiane pourra s'occuper de ça pour que les gens, nos auditeurs, puissent s'y rapporter.
D'accord.
France Cardinal Remette, je rappelle votre livre qui est aussi une ressource quand la vie se fragilise. Un guide pour vous et vos proches aidants, c'est publié chez Multimonde. Vous êtes infirmière et enseignante auteure. Merci beaucoup d'être notre chroniqueuse.
Merci, Marianne.
Dernier segment de cette émission, c'est bon pour la santé. Je vous parle souvent d'un coup de cœur. Et aujourd'hui, en cette journée internationale des femmes ou du droit des femmes, c'est selon, hein, il y a différentes appellations, on est un peu confus. J'avais envie de vous parler d'une femme que j'admire, Sophie Brochu, qui est présidente et chef de la direction de Gaz Métro, également porte-parole de cet événement. Et c'est pour ça que je vous parle d'elle aujourd'hui, de cet événement qui s'appelle Soupe pour elle, première édition en 2015, deuxième édition plus récemment, 2017, 1er mars, qui vise en fait à rassembler des gens issus du milieu des affaires, du milieu culturel, donc à créer un mouvement de solidarité qui a comme objectif premier d'amasser des fonds pour soutenir 9 organismes, oui, dédiés aux femmes, au mieux-être, au bien-être des femmes. Quels sont ces organismes? Quelques-uns, je pourrais vous en nommer. La Dauphinelle, Maison Marguerite, Le Chaînon, peut-être plus connu du grand public, Maison Passage. Donc, des organismes qui, au quotidien, aident concrètement des femmes, que ce soit en leur offrant de la nourriture, en les sortant de la rue, en leur offrant un logis, une sécurité, une dignité. Donc, ce pour elles, c'est ça, ça vise à amasser de l'argent. Et même si l'événement était le 1er mars dernier, vous pouvez quand même contribuer à votre façon parce qu'il y a cette campagne qui continue sur le site La Ruche. Dernière journée, par exemple, en ce 8 mars pour contribuer. Et évidemment, et ça, Sophie Brochu le disait, tous les dons sont bons. Évidemment, si vous avez 100 $ on va le prendre, mais 10 $ 20 $ ça peut faire la différence dans la vie de ces femmes-là. Ces femmes-là, ça peut être votre sœur, votre collègue, votre notre ami, personne n'est à l'abri de cette vulnérabilité qui peut arriver à tout moment. laruchequebec.com pour aider pour le projet Soupe pour elle, qui est soutenu par cette grande femme, Sophie Brochu, qui est derrière cette initiative, ce mouvement de solidarité en aide aux femmes et bien sûr à leurs enfants, hein, parce que souvent, qui dit femme dit famille, dit enfant. On s'en rend pas toujours compte, mais on aide une femme et on aide bien souvent ses enfants aussi et sa famille. Voilà, c'est ce qui met fin à cette émission de C'est bon pour la santé. Merci d'avoir été des nôtres cette semaine. Je remercie l'équipe Jean-Sébastien de la Liberté à sa console. C'est Christiane Campagna aux médias sociaux qui pourra mettre ses liens, les liens émis par France Cardinal Remette sur les soins palliatifs, et Martin Forgue à la recherche. On est en rediffusion à 17h. Vous pouvez nous visiter au vuesetvoix.com. Également, on aime vous entendre. Manifestez-vous sur Twitter et sur Facebook également. Le téléphone 361-0635, poste 220. C'est Marianne Paquette. Je vous salue. Portez-vous bien. Bye-bye.